Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, comme sujet, il y a les procureurs de la couronne qu'on appelait autrefois maintenant les procureurs à la direction des poursuites criminelles et pénales. On reçoit Maître Guillaume Michaud. On lance un cri d'alarme dans le sens qu'il n'y a plus de capitaine à bord parce que la directrice avait démissionné. On n'a pas nommé personne et il y a des choses à régler. On le reçoit tout à l'heure. Ensuite, on pose la question à Maître Frédéric Bérard. Qu'en est-il de la liberté d'expression universitaire? Les professeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire? Ensuite, gain de cause pour les soignants, pour le port du masque N95. On reçoit Sophie Mongeon. Et pour commencer, on se pose la question avec Maître Jean-Paul Boily. Est-ce qu'on peut tenir les mesures sanitaires en prévention? Est-ce qu'on peut restreindre les droits et libertés personnelles, même si certains secteurs sont tombés en zone orange? Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On se pose une question importante à Avocat à la barre. C'est sur les droits et libertés individuelles. Bon. Depuis le début de la pandémie, on essaie d'être d'un coup d'avance pour essayer d'analyser le droit, vos droits. Et on se pose la question, est-ce que le gouvernement peut utiliser, bon, privation de droits et libertés importantes, là, on le voit avec un couvre-feu, où est-ce qu'on empêche des gens de sortir en telle heure et telle heure. On ne pensait jamais se rendre là, mais on a dû le faire pour combattre la pandémie. Mais là, on voit qu'il y a une diminution des cas. Qu'il y a des zones qui étaient en zone rouge, là, qu'on disait bon, qu'il y avait un problème. On passe en zone orange, mais on maintient quand même les règles sanitaires, la privation de droits et libertés en place. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le gouvernement peut brimer ces droits-là, qui sont des droits fondamentaux, en prévention?
Parce qu'on se pose des questions.
C'est ça. On se pose beaucoup de questions, avocat, là-bas.
On en pose.
En prévention, de dire, regardez, il n'y a plus d'urgence immédiate. Cependant, c'est plus prudent de laisser ça en place. Donc, on va les laisser. Est-ce que légalement, c'est correct quand on parle de privation de droits et libertés? Vous reconnaissez la voix de Maître Jean-Paul Boily qui est là pour nous en parler.
Bien, c'est sûr qu'on en est déjà discuté ensemble à l'émission. Puis, c'est jamais ni blanc ni noir. Il y a toujours des zones grises, on le dit. Bon, là, le problème présentement, parce que là, il y a une poursuite qui est encore pendante, on n'a pas de décision encore de rendu. Là, c'est l'ancien fondateur du Bloc Pot, là, qui est celui qui est dans le cannabis maintenant légal, mais il fait une demande.
Bien, c'est l'Association de la protection des droits du public.
C'est ça.
Où est-ce qu'il y avait échoué avec un habeas corpus? Il y a un juge qui avait dit que ce n'est pas de l'emprisonnement.
Pas le bon recours, c'est ça. On avait
mais là, il y a un contrôle judiciaire sur à peu près toutes les mesures.
Oui, toutes les mesures.
Mais est-ce qu'ils vont se servir du fait qu'on garde des mesures en prévention?
Bien là, il y a un point qui est important. Est-ce que l'application de la Charte canadienne des droits ou même de la Charte québécoise s'applique? Parce qu'on a parlé de l'urgence là, dans d'autres chroniques antérieures. Là, on n'est plus dans une urgence sanitaire, on est dans des mesures sanitaires. Bon, on a parlé aussi des décrets du jour en du jour, là, que ça devrait achever. Enfin, on espère que l'Assemblée nationale va siéger un moment donné, puis ça va être les députés du peuple qui vont décider au 30 jours et non du jour. Bon, il y a toute une question d'économie et de pratique là-dedans, parce que de du jour en du jour, la situation change. Donc, c'est plus facile pour le gouvernement d'adopter ce genre de décret-là. Mais là, c'est de savoir, est-ce que, parce que là, vous l'avez posé la question qui se pose, on n'est plus en zone rouge dans certaines régions du Québec, on est en zone orange. Bon, est-ce que le couvre-feu, par exemple, il y a des zones rouges encore comme les nôtres en Ontario, mais ils n'ont pas de couvre-feu. Est-ce qu'on peut limiter, parce qu'on a parlé de port du masque, on a limité un paquet de... Il y a un paquet de choses qui ont été adoptées dans les décrets, vous le savez, depuis un an, là, on a adopté plusieurs mesures sanitaires. Pourquoi? Parce que l'article 123.8 de la loi permet ce genre, c'est une clause basket, là, qui permet ce genre d'adoption de mesures comme ça. Mais là... Le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est rendu arbitraire? Parce que dans la définition que le législateur donne au niveau de la charte, on dit que il faut qu'il y ait un caractère rationnel lorsqu'on parle de liberté de circulation, puis qu'on impose un couvre-feu, bien, est-ce que c'est justifié? Ça, c'est un des premiers critères.
Mais surtout qu'on parle de menaces imminentes et réelles dans la loi... Mais le questionnement, c'est que... Puis on veut pas dire que c'est mauvais, mais on s'est comme habitué à quelque chose qu'avant, on n'aurait jamais vu, de brimer des droits. Mais est-ce qu'on peut laisser ça en place en disant que c'est plus prudent? Je suis pas sûr que la loi permet
pas jusque-là. Ben, le critère de prudence, il est là. On parle... la loi ne doit pas avoir une portée excessive. Ça, c'est le deuxième critère qu'on doit regarder. Mm-hmm. Hein? Faut pas nier les droits de certaines personnes parce que il faut que ça ait un rapport avec l'objet. Or, le fait que... On le voit, là, au Québec, il y a eu au-dessus de 10 500 morts depuis le début de la pandémie. Bon, là, ça baissait un petit peu, ça remontait un petit peu. Est-ce que le fait de permettre... Puis ça, ça sera au gouvernement de faire cette preuve-là. Lorsque c'est contesté devant un tribunal, c'est souvent ou c'est tout le temps ceux qui appliquent une loi qui ont le fardeau de démontrer que cette loi-là, elle est justifiée. Alors, si la loi n'a pas une portée excessive, bon, on a fermé les bars, on a fermé les restaurants, là, on réouvre tranquillement. Est-ce que c'est excessif ce qu'on fait là? Moi, j'en doute. Là.
C'est certain que c'est pas excessif.
Mais c'est des questions légales qu'on peut se poser.
Oui, mais c'est certainement pas excessif. Sauf que la question, c'est est-ce qu'on devrait, dans les zones orange, enlever le couvre-feu et le remettre si ça empire? Mais ben là, le gouvernement, ce qu'il semble faire, c'est se dire on est peut-être mieux de le laisser.
Parce que ça va mieux.
Parce qu'il y a les variants, qu'il y a un risque.
Et voilà.
Mais on n'est plus dans ce qu'on a vu, dans l'urgence immédiate réelle.
Là. C'est là que le troisième critère rentre en ligne de compte, parce qu'on dit... Puis c'est le 3 et 4e, parce qu'on part la charte, l'article 1 de la charte, on y reviendra, mais on dit le dernier critère, c'est de savoir si la loi a des conséquences disproportionnées eu égard à son objet. Est-ce que le fait d'adopter ces critères-là de couvre-feu, est-ce que ça devient disproportionné à un moment donné? Parce que, vous l'avez dit, là, on est en zone rouge, on tombe en zone orange. Bien, lorsqu'on était en zone orange, dans les décrets passés, on n'avait pas de couvre-feu, souvenez-vous. C'est passé du vert au jaune, du jaune à orange, et du orange au rouge, et après ça, on a eu un couvre-feu. Bon, c'est là que... Est-ce que ce critère-là devient disproportionné? Est-ce que ce critère-là pourrait ne pas passer l'article 1 de la Charte canadienne des droits qui spécifie que toute règle de droit peut restreindre des droits dans une limite raisonnable? Est-ce que ça se justifie d'une société libre et démocratique? C'est ça l'article 1. Alors là, puis on fait de l'avocasserie encore là, mais Bernier, on est bon là-dedans, tous les deux. Mais il reste que, est-ce que ça devient déraisonnable le fait de garder un couvre-feu alors qu'on a changé de zone? Bien, c'est une question qui se pose. Bon, on y répond pas nécessairement par les négations, là.
Avec ce que vous dites sur l'article 1, avant la pandémie... Moi, ce que j'ai toujours constaté des droits et libertés, parce que c'est sérieux, je veux dire, faut pas banaliser la privation de droits et libertés, malgré la menace, mais je comprends ce qui s'est passé.
Parce que c'est un droit fondamental au Canada.
Ce que j'ai toujours connu de ça, c'est que il y a une menace, il y a une latitude, on brime des droits, mais habituellement, dès que la menace n'est plus là, automatiquement, il faut les rétablir au plus vite. Quitte à les rebrimer.
Mais voilà, c'est une restriction.
C'est peut-être ça, en ce moment, l'erreur de dire, laissons-le au cas.
Oui.
Ils devraient peut-être l'enlever puis le remettre s'il y a un problème.
Ben écoutez, ils l'ont fait pour les écoles. Ils ont fermé des écoles, ils ont rouvert des écoles. Là, on voit dans le bas du fleuve, là, il y en a qui ont fermé à cause des variants cette semaine. Bon, on prend pas de chance. Dans un cas de santé publique, on ne prend pas de chance. Et les tribunaux vont faire
et
pareil.
Les tribunaux, ils n'aiment pas ça. Ben,
ils n'aiment pas se faire dire
on n'a pas pris de chance, on a laissé ça plus restrictif. Ils n'aiment pas se faire dire ça.
Et c'est pour ça que la poursuite qui a été intentée, là, qui a été refusée pour l'habeas corpus, mais qui va être entendue pour la balance, là, qui conteste à peu près tout, ben sur le couvre-feu, c'est pas sûr. Là, on dit maintenant, dans les zones oranges, c'est rendu 9h30 le soir. Bon, est-ce qu'on a brimé les libertés des gens? Oui, ceux qui veulent aller dans les bars, mais les gens, 9h30 le soir, rendus à mon âge, sont souvent couchés. Mais ils ont eu le temps de manger, ils ont eu le temps d'aller au restaurant. Alors, est-ce que cette limite-là, qui a passé de 8h à 9h30, est déraisonnable? Je serais bien surpris qu'un tribunal prononce ça, pour l'instant. Mais plus tard, il y en a qui vont essayer de mettre en preuve, dans les autres provinces, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait dans les autres pays, etc. Alors, tout ça, ces règles-là, qui sont des règles de santé publique, doivent aussi respecter les règles de droit. Bon, les règles de droit, c'est encore là, on le dit, c'est fait pour s'ajuster. Le gros bon sens est tout le temps là, et puis on peut pas dire que les mesures que le gouvernement prend sont déraisonnables. C'est sûr qu'on peut pas dire ça. Maintenant, est où la limite? Ça, c'est une bonne question. Et encore là, on veut pas y répondre aujourd'hui, mais on pense que éventuellement, puis on l'a dit, M. Bernier, encore la semaine dernière puis l'autre semaine, le gouvernement, à un moment donné, il faut qu'il arrête de gouverner par décret. Ça peut plus fonctionner après un an. Rendu en zone orange...
Ça serait peut-être le même.
Oui, peut-être. Mais au moins, on aurait l'impression que c'est pas juste un petit groupe d'individus qui décide. La santé publique, on le dit, des fois, ils disent au gouvernement « Allez à gauche », puis le gouvernement n'ouvre pas trop. Des fois, il dit « Allez à droite », puis il n'ouvre pas trop.
Je me lance, M. Boyle.
Oui, allez-y. Allez, on aime ça, faire des prédictions. Ouais.
Je pense, honnêtement, qu'un tribunal... que brimer des droits, il faut qu'il y ait l'imminence, l'urgence.
Ouais.
Parce que c'est important, faut pas banaliser
non,
ça.
Non, jamais.
Mais j'ai l'impression que dans notre situation, un tribunal se dirait, OK, ça repasse en zone orange.
Oui.
Théoriquement, on devrait l'enlever. Mais il y a une menace qui est encore là, réelle,
si
imminente.
On peut pas repasser...
Et ce n'est pas le nombre de cas parce qu'il diminue.
Ouais.
C'est le variant britannique, brésilien. Qui est peut-être cette menace-là qui justifie encore cette, je dirais pas prévention, parce qu'il faut pas dire c'est l'en prévention, qui justifie un couvre-feu même.
Pour pas retourner, il pourrait dire ça pour pas retourner en zone rouge. Ça pourrait être une prétention qui pourrait être importante. Ouais. Faut pas oublier aussi, dans la contestation, il y a un autre point important en droit, encore une fois. Les gens disent, oui, mais un instant, là, la privation de droit et le fait d'adopter un couvre-feu avec des amendes importantes et des possibilités d'arrestation, ça pourrait être considéré comme du droit criminel. Or, du droit criminel, c'est fédéral. Alors là, on dit, le gouvernement... ce sont les prétentions des gens qui contestent. Je vous dis pas que je les partage, loin de là. Mais il reste que c'est un autre point
qui va être discuté. Le droit de la santé provinciale.
Oui, le droit de la santé provinciale, mais en faisant ce genre de réglementation-là, on vient jouer dans les plates-bandes du code criminel un petit peu, par la bande, et là, ce sont des prétentions. Je pense pas qu'ils ont raison.
Non, il faut des infractions pénales,
exact.
Au Québec,
c'est pas fédéral, c'est ça. Mais c'est ce qu'on prétend, parce que là, on dit, on adopte ce genre de position-là partout au Canada, d'un océan à l'autre, comme disait l'autre. Je parlais de l'autre Trudeau, mais je parlais pas de l'océan, je parlais du Trudeau. Mais il reste que ces facettes-là du droit vont être plaidées. Je pense pas qu'ils vont réussir, mais il reste qu'il faut toujours garder à l'esprit les chartes. Les chartes, c'est important. La santé, c'est encore plus important, mais si on enlève un droit, faut qu'on leur donne. Je suis pas d'accord avec vous. Puis pas, faut pas niaiser, mais la santé, c'est important.
C'est ça, les chartes sont importantes. Et effectivement, la règle, c'est que dès que le gouvernement sent que c'est plus une nécessité, il se doit de redonner les droits aux gens.
Il va avoir à
les restreindre s'il y a une autre nouvelle menace.
Exact.
Mais le variant, d'après moi, vient de changer. Pour l'instant, merci, Matt Boily.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales demande à l'Assemblée nationale de procéder de façon urgente à la nomination d'une directrice aux poursuites criminelles et pénales. Parce qu'il y a des choses à régler à l'interne, évidemment, et on sait que Maître Annick Murphy avait donné sa démission et on ne l'a pas remplacée. Bon, vous savez, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, procureurs de la couronne, comme on les appelait avant, ont un rôle très important dans notre système. On le sait, on voit beaucoup de nouvelles hein, sur, exemple, l'arrêt Jordan, l'arrêt des procédures. Des fois, on a tendance à vouloir leur jeter la roche, disant, ben, le travail a mal été fait, on a échappé des criminels. Mais pour ce faire, ça prend des ressources pour poursuivre et avoir des gains de cause, qu'il n'y ait pas trop d'arrêt de procédure. Ça prend des ressources. On se rappelle, en 2011, il y avait eu une grève des procureurs de la couronne. Et suite à ça, je ne sais pas si on avait réglé le problème parce qu'il y a eu une loi spéciale et on les a forcés au retour au travail. Comment ça se passe depuis? Est-ce qu'ils ont les ressources? Est-ce que même on les écoute? Il y a un dialogue. On en parle avec le président Maître Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Maître Bernier.
Merci d'être avec nous. Donc, vous avez fait une sortie parce qu'il semble y avoir un problème en ce moment-là. Il n'y a pas de capitaine à bord.
C'est en plein ça. Écoutez, nous, ce qu'on dit, l'objectif de notre démarche, c'est d'appeler l'Assemblée nationale à nommer un nouveau directeur là, parce que la situation ne peut pas rester comme ça longtemps. Là. Donc, présentement, ce qui se passe, c'est que le directeur par intérim, Maître Vincent Martin-Beau, ne veut pas parler de dossiers importants, ne veut pas même discuter avec ses procureurs et entendre leurs problématiques. Donc, dès le lendemain de sa nomination, on a mis fin aux discussions qui avaient lieu entre le DPCP et l'association sur des sujets super importants.
Donc, il n'y a même pas de dialogue pour évoluer dans différents dossiers, là.
Non, il n'y a pas de dialogue avec le directeur. Il ne veut pas nous entendre sur les dossiers qu'on veut bien lui expliquer, le dossier de la santé mentale des procureurs et le dossier des ressources également.
Mais c'est particulier parce qu'habituellement, il faut du moins essayer d'en discuter. Est-ce qu'il y a eu un retour du gouvernement? Parce qu'en ce moment, c'est lui le grand patron, là, si je comprends bien, en intérim, jusqu'à temps qu'on en nomme un autre.
Oui, c'est ça. En fait, c'est lui le grand patron présentement. Et vous avez raison de dire, pour faire avancer les choses, il faut qu'il y ait une discussion. On n'est pas toujours d'accord et on ne peut pas toujours être d'accord. Mais minimalement, si on ne se parle pas, c'est certain qu'on ne peut pas avancer. Là. Donc, l'important, c'est au moins d'avoir une discussion. Et même si on a des positions différentes, bien, de continuer à discuter parce que souvent, on trouve des solutions problématiques à ce moment-là.
Bien, effectivement. Honnêtement, je suis assez surpris parce que c'est quand même réfractaire d'au moins, dans ce genre de dossier-là, même on a vu des dossiers dans notre société très, très épineux, où est-ce qu'au moins on tente de se rencontrer et d'en discuter, là?
Effectivement. Mais là, c'est pas le cas. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'un leader. Mm-hmm. On a besoin d'un leader pour traiter des réalités qui ne peuvent pas être ignorées. Donc, le manque de ressources, la santé mentale, là, on ne peut pas se permettre de mettre ces discussions-là sur pause. Et l'intérim pourrait durer jusqu'à 18 mois. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas se permettre pendant 18 mois d'attendre après un nouveau directeur. Là. Mm-hmm. Il faut le nommer tout de suite parce que si le directeur qui est là actuellement ne veut pas traiter de nouveaux dossiers, ne veut pas traiter de dossiers, alors ce qu'il faut, bien, ça prend quelqu'un qu'on va nommer, qui va être rassembleur, qui va parler à ses troupes parce que c'est ça, les procureurs veulent. Ils veulent se sentir... Ils veulent sentir que la personne qui est au-dessus d'eux, ben, les écoute, les comprend et écoute sur leur association qui les représente, là, qui représente quand même l'ensemble des procureurs du Québec.
Ben oui, effectivement, vous représentez 655 procureurs et parallèlement à ça, il y a un article qui est sorti, c'est dans Le Soleil, parce que le but, c'est pas de faire pitié, mais il faut se rappeler que dans le système judiciaire, la poursuite, évidemment, c'est une partie très importante. Et là, il y a une grosse pression aussi, là. Il y a une grosse demande parce qu'on sent là, que les procureurs de la Couronne sont sous pression, là.
Ah, il y a une énorme pression pour les procureurs de la Couronne. Puis effectivement, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire pitié, mais c'est d'expliquer à la population qui est en droit de s'attendre à un service de qualité, d'avoir un accompagnement de qualité. Et là, nous, c'est de leur dire, bien, écoutez, nous, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a, mm-hmm. mais on a des centaines de dossiers, on veut rencontrer les victimes, mais on n'a pas le temps, même si c'est notre désir le plus profond, ça frustre les procureurs. Les procureurs veulent rencontrer les victimes, veulent passer du temps avec eux, veulent leur faire des suivis, mais quand on a des dizaines et des dizaines de dossiers qui nous attendent, et qu'on a des dizaines et des dizaines de victimes à rencontrer, ben on fait notre possible, comme on dit. Mm-hmm. Et souvent, même le matin même du procès, ben on rencontre les témoins qu'on n'a jamais vus avant, qu'on n'a jamais préparés avant. Alors, évidemment, ben c'est plus difficile de faire nos dossiers. Le roulement est extrêmement difficile pour les procureurs qui ont trop de travail présentement et on leur donne pas les ressources nécessaires pour faire leur travail. Et ça, ben ça a une conséquence d'un sur le service à la population. Mm-hmm. Ça a une conséquence directe sur les victimes, parce que les victimes, bien, on les entend présentement, c'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est plus d'accompagnement. Ils ont raison de vouloir plus de soutien, plus de support. Puis c'est notre travail, nous aussi, en grande partie, mais on manque de personnes pour le faire.
Ben oui, puis ça a un impact sur le système, parce que si je comprends bien, puis j'ai dans ma pratique entendu des choses comme ça, souvent les victimes se sentent délaissées. Donc, ils se disent, bon, on ne s'occupe pas de mon dossier, ou comprennent mal la procédure, comment ça fonctionne et tout le processus, ce qui fait qu'ils sortent de là, ils sentent pas que justice a été faite. Puis dans notre système, c'est important que ces victimes-là sentent que justice a été faite.
Alors, c'est très important. Les procureurs veulent expliquer ça aux victimes et veulent que les victimes se sentent bien dans le système et qu'on les accompagne. Mais le procureur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dossier en droit à préparer aussi. Mm-hmm. Il y a des témoins à rencontrer lorsque c'est possible. Il faut qu'ils rencontrent les victimes aussi. Et ça, dans une multitude de dossiers. Alors, présentement, je vous dirais que les procureurs sont inquiets face aux services dont ils peuvent donner aux victimes. Et malgré tout, je veux qu'elles sachent, ces victimes-là, qu'on est de tout cœur avec elles et qu'on fait notre possible avec les ressources qu'on nous donne. Mais si on veut un service de qualité, ben, il va falloir investir. Et ça, c'est la première conséquence, c'est sur les victimes, mais il y a des conséquences aussi sur les procureurs.
Ouais.
Et vous m'avez amené sur ce point-là. Là, au niveau de la santé mentale, présentement, on a des problèmes de santé mentale qui sont criants. Là. On a fait une recherche là, avec une experte là, qui a démontré là, en 2019 qu'il y avait un énorme problème au niveau de la santé psychologique des procureurs. Là.
Il y a cette pression-là parce que, on explique à nos auditeurs, quand, je veux dire, le procureur de la Couronne a une responsabilité, bon, c'est lui qui décide, bon, si il prend des poursuites, si il pense qu'il y a une expectative de succès devant un tribunal. Et tout ça, le travail doit être fait. Puis quand survient une erreur, en quelque sorte, ça retombe sur sa faute. Même si c'est systémique, même s'il n'y a pas la ressource, on exige le meilleur d'eux. Et quand il y a un arrêt de procédure, par faute de preuves ou par des délais trop longs, ça doit revenir sur le procureur qui est au dossier. Là.
C'est sûr qu'on est, c'est un travail qui est exigeant et c'est correct. Là. Oui, on a effectivement beaucoup d'exigences, là, beaucoup de choses qui reposent sur nos épaules. On a une charge de travail qui est importante. Mais effectivement, tout ça amène des conséquences de nature psychologique. Là, et on n'a pas d'accompagnement. Là. On a un prétendu programme qui existe depuis 2013 selon le DPCP, dont la majorité des procureurs ne connaissent même pas l'existence. Là. Donc, c'est une coquille vide. Alors, on n'accompagne pas les procureurs présentement et nous, on dépose un rapport sur la santé mentale et depuis 2 ans, il n'y a rien de concret qui a été fait. Et on se retrouve avec des procureurs qui sont à bout de souffle, qui nous écrivent, qui sont complètement épuisés. Là. Mm-hmm. Et j'ai des procureurs qui me disent que c'est une culture de l'épuisement, du travail acharné sans limite, que c'est une culture qui valorise les super-héros qui ne demandent pas d'aide. Alors,
ben,
oui, c'est difficile pour les procureurs.
Bien, c'est ça. Puis je peux en témoigner aussi. Le problème qu'on a, c'est un peu avec les hôpitaux aussi. Puis quand on dit, quand le privé est là, il est important que vous gardiez des bonnes ressources, des talents, comme on dit dans ce domaine-là aussi, que les procureurs de la Couronne n'aient pas tout du côté de la défense parce que, justement, ils sont trop sous pression à la Couronne.
Non, non, mais il faut attirer. Mais là, comment on les attire, les gens, quand on leur dit, ben écoutez, venez travailler à la couronne, vous allez avoir trop de travail, pas assez de temps pour faire vos
pas assez de ressources.
Vous allez être obligé de travailler en dehors de vos heures de travail. Et en plus de ça, ben, ça va être difficile de demander vos heures de temps supplémentaires parce que vous allez avoir peur de ne pas avoir l'air de supporter votre charge de travail et de vous faire juger par l'organisation.
Ah, oui.
C'est ça qui se passe présentement. Là. C'est les procureurs qui travaillent beaucoup plus que le temps qu'ils devraient, le font en plus sur leur temps personnel et souvent ne sont pas payés parce qu'ils n'osent pas demander ces heures-là de peur de se faire juger.
Ben oui. C'est l'encadrement aussi. Ça ne doit pas être facile aussi pour les procureurs de la Couronne de prioriser les dossiers. Et même quand un dossier est entrepris, d'arriver et de dire je laisse tomber des accusations parce qu'il manque telle chose. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont à la Couronne. Ça ne doit pas toujours être évident de faire ça, d'arriver à prioriser puis choisir là, vraiment les vraies batailles. Là.
Vous savez, il y a beaucoup de jeunes, effectivement, présentement. Il en faut des jeunes. Là.
Ben oui.
Il faut, je pense, un juste milieu entre les jeunes et les personnes d'expérience. Et c'est juste normal. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que présentement, il y a une difficulté d'attraction, d'attirer des personnes qui ont un certain nombre d'expérience. Puis même d'attirer les plus jeunes, là, il y a quand même une compétition qui se fait là, entre les grands bureaux d'avocats et,
oui.
et les bureaux de la Couronne. Donc, il faut attirer les meilleurs possibles dans la profession. Et pour ça, maintenant, aujourd'hui, il faut leur donner une qualité de vie. Parce que c'est ça que les jeunes veulent, mais la qualité de vie présentement, nous, quand on parle quand on a parlé à Maître Martin Beau, la réponse, quand on parle de conciliation travail-famille-vie, la réponse a été que ce n'est plus une priorité pour le DPCP et qu'on n'en traitera plus.
Alors, c'est ça la réponse. En 2021, c'est pas une bonne réponse, je peux vous le dire, dans tous les domaines, parce qu'il y a une génération qui veulent vivre à travers le travail. Mais en tout cas, je vous souhaite d'être entendu et que ça se règle, parce que ça n'a pas d'allure qu'il n'y ait pas de capitaine dans le navire, comme on dit. Et bon, à nos auditeurs, quand vous voyez des arrêts des procédures, des toutes sortes de choses, il faut des fois penser de régler le problème à la source et avoir ce qu'il faut à la Couronne. Je pense que c'est un très, très bon début pour éviter des dérapages judiciaires. Merci beaucoup, Maître Guillaume Michaud, de nous avoir ça. Puis je vous souhaite là, que le gouvernement entende ça rapidement.
Je vous remercie beaucoup également.
Merci, bonne journée.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Ça a brassé cette semaine dans le milieu universitaire. Bon, c'était pas la première semaine. On sait, on commence à se questionner sur la liberté d'expression dans les milieux d'enseignement. C'est un professeur, il enseigne à des jeunes, il a une influence. Est-ce qu'il peut dire ce qu'il veut? Et on a vu toute la polémique avec Amir Attaran qui disait, bon, qui semblait traiter, on l'accuse d'être raciste vis-à-vis des Québécois. Et il y a eu tout ce débat-là, évidemment, sur le racisme systémique. On avait parlé la semaine dernière, on avait parlé de cette partie-là avec Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour.
Salut.
Salut. Et là, on attaque une autre partie qui est dans les milieux universitaires. Qu'est-ce que tu en penses là, du professeur Amir Attaran? Et là, il y avait eu un autre cas aussi, une professeure de l'Université d'Ottawa qui avait été suspendue parce qu'elle avait dit le mot en haine à ses étudiants. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les professeurs?
Je pense que c'est bien compliqué. C'est ça que je pense. Je pense que je change d'idée une couple de fois par jour.
Hey, c'est vrai, hein?
Et moi, la liberté d'expression, je l'ai souvent dit, c'est l'enjeu le plus compliqué, je trouve, en matière de charte.
Ouais. Et puis, on rappelle à nos auditeurs que tu es toi-même professeur.
Oui, exact.
Ouais.
Ce qui est difficile en matière de liberté d'expression, c'est que tu peux apprendre une position, mais c'est facile de voir la contrepartie, puis c'est un jeu d'équilibre qui est excessivement difficile à mon sens à trouver. Écoute, ce que j'en pense, moi je pense qu'Attaran, il aime ça, il a exercé sa liberté d'expression, je vais exercer la mienne. Je pense que c'est un parfait tata. ceux qui l'ont entendu le savent. Ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais vous le dire. Il a dit que les Québécois, que le Québec, c'était l'Alabama du Nord, qu'on pratiquait le lynchage médical, en faisant référence aux affaires de Joliette, là, qui sont déplorables, mais de là à dire que c'est du lynchage, il faut pas venir fou.
Ouais.
Et il a aussi dit que François Legault est un suprémaciste blanc. Bon, c'est n'importe quoi pour se discréditer. Il y avait des affaires qu'il a dites qui sont pas stupides. Par contre, c'est vrai que le Québec est la seule province canadienne à ne pas reconnaître le racisme systémique. Ça, c'est factuel. Mais pour le reste, je pense qu'il a perdu évidemment toute la crédibilité qu'il aurait pu avoir s'il s'en était tenu justement au fait. Maintenant, est-ce qu'un prof d'université a le droit d'agir de cette manière-là? Est-ce qu'il a cette liberté d'expression? Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte ici. Là, il l'a fait sur son compte Twitter.
Il l'a fait en dehors de sa classe.
Ouais, il l'a fait publiquement, mais s'il avait tenu les mêmes propos à l'intérieur de sa classe, est-ce que ça aurait été la même chose? Peut-être pas. Moi, je me mets à la place d'un étudiant qui est québécois qui se fait enseigner par ce bozo-là. on s'entend que ça part bien mal. Et ce qui est déplorable, moi, je suis pas du genre très chatouilleux là, sur ces questions-là. Il y en a qui sont pas mal plus sensibles que moi, mais est-ce que c'est une forme de racisme envers les Québécois? Si on considère que les Québécois, c'est une race d'un point de vue pas biologique, mais d'un point de vue culturel, ouais, OK, peut-être. Est-ce qu'on accepterait ce genre de propos-là sur, par exemple, je sais pas moi, la communauté noire, la communauté arabe, la communauté asiatique? Bien évidemment que ça serait pas toléré. Donc, pourquoi c'est toléré ici par Jacques Frémont, le recteur, parce que ça touche les Québécois? Ça, je pense qu'il y a une espèce de petite habitude qui s'est prise là depuis plusieurs décennies. Les Québécois, c'est jamais très grave si on leur tape sur la tête. Puis moi, ça me dérange pas de me faire taper sur la tête si on le mérite. Mais là, de dire qu'on est à l'Alabama du Nord puis que le Legault est un suprémaciste blanc, faut quand même pas virer fou non plus. Donc, ça, c'est pas simple, dans le sens où, comme prof d'université, moi, j'ai envie de te dire, oui, j'ai le droit de dire ça, parce que ça prend une certaine marge de manœuvre. Tu peux pas commencer comme recteur d'université à suspendre tout le monde. Ce qui est le problème, avec l'Université d'Ottawa, avec ce que Jacques Frémont a fait, c'est que tu y as référé pendant ton introduction, la prof de cet automne, lieutenant Duval, qui a prononcé le mot « haine » dans un cadre académique, dans le sens où elle enseignait l'appropriation culturelle, comment ce terme-là a été récupéré, a été utilisé, bon, et ainsi de suite. Elle avait jamais l'intention, de ce que j'ai compris, d'insulter la communauté noire. Là, c'était même une alliée de la cause. Elle avait libéré ses étudiants pour aller aux manifestations.
Non, c'est ça. Elle voulait éduquer. Là. C'est comme le mot pamphlet. On utilise le mot pamphlet, je l'ai dit, mais c'est aussi grave que le mot en haine, théoriquement, parce que historiquement parlant, c'était des dépliants qui dénigraient la communauté noire. Bon. C'est ça. C'est de l'éducation, là, ça.
Puis là, maintenant, est-ce que... Tu sais, ça a fait réfléchir, ça, à l'automne. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser le terme? Pas tout le temps. Par contre, il y a
tu as dit le mot réfléchir. Est-ce que ce qui se passe avec Amir Attaran, disons qu'on remonte avant l'histoire de Duval, là, du mot en haine, qui aurait été congédié, mais là, on s'est comme dit, bon, on s'en mêle plus, là, parce que si je me rappelle bien, celle qui a dit le mot en haine, a été réintégrée, à mon souvenir.
Elle a été réintégrée depuis. Moi, ce qui m'a particulièrement fâché dans cette affaire-là, c'est qu'elle a été suspendue alors qu'on n'a même pas voulu accepter sa version des faits. On n'a même pas voulu l'entendre initialement. Ça, là, je veux dire...
Ouais, ça n'a pas de sens.
Non, non, Frémont, c'est un juriste. C'est-à-dire, c'est lui qui m'avait engagé à l'université à l'époque. Il est avocat. Il était président de la Commission des droits de la personne. Je veux dire, peu importe ce qu'on reproche à un individu, et j'insiste là, peu importe.
Ouais.
Tu dois l'entendre. C'est une obligation qui découle des principes de justice naturelle.
Odi alteram partem, je m'en rappelle.
Ben oui, exact. Et là,
en latin.
Et là, elle a été réintégrée. Puis il y a eu pas mal de bullshit autour de ça. Frémont a laissé entendre que c'est plus grave ce que vous pensez, blablabla, blablabla. Bla, bla, pour essayer de la dénigrer. Et là, tu as cette espèce de bozo-là d'Attaran qui, lui, insulte les Québécois volontairement à plus d'une reprise. C'est pas dans un cadre académique, c'est dans un cadre de polémique pour faire du trouble. C'est juste épais.
Qui veut pas s'excuser aussi.
Mais non, il veut pas s'excuser. Puis là, il s'est pogné avec Saint-Pierre Plamondon qui lui demandait juste ça par ailleurs. Et là, toi, tu t'appelles Jacques Frémont, tu dis non, lui c'est correct, mais lieutenant Duval. Tu sais, je comprends qu'il y a une différence entre ce qui peut être ressenti dans une salle de classe et ce qui peut être émis sur Twitter.
Mais je t'arrête là-dessus. Est-ce que Parce que quand tu es professeur, est-ce que tes étudiants ont tendance à te suivre sur Twitter ou?
Ben ouais, je pense que oui.
Il fait indirectement ce qu'il peut pas, peut-être pas faire directement.
Ouais, ben ça c'est intéressant comme moi, surtout que tu sais, un compte Twitter, c'est nécessairement professionnel. Tu sais, lui, il met ça, c'est son vrai nom, prof Université d'Ottawa. Tu sais, moi là, ben toi aussi comme avocat, là, si tu te mets à dire des conneries en ondes, ben tu peux recevoir une plainte au barreau puis te faire écœurer avec ça. Tu sais, t'es avocat en tout temps, donc à ce compte-là, t'es prof en tout temps aussi, même s'il n'y a pas les mêmes obligations déontologiques. Et c'est ça, tu sais, quand je te dis que c'est difficile, c'est exactement là que je voulais aller. C'est toutes les nuances qui sont nécessaires. En même temps, moi, je pense que la liberté d'expression, c'est pas fait pour flatter le monde dans le sens du poil. La liberté d'expression, c'est fait pour protéger les opinions désagréables, les opinions qui choquent, parce qu'on considère qu'on ne veut pas avoir une espèce de société de langue de bois. On veut avoir des opinions.
On veut pas d'autocensure. C'est ça le danger des professeurs qui s'autocensurent.
On s'entend, ça. Puis parfois, la liberté d'expression va protéger des opinions débiles, mais parfois, elle va protéger des opinions qui sont pas débiles du tout, mais qui choquent. Quand t'en as un qui te dit que la Terre est ronde la première fois, là, ça n'a pas super bien passé. Celui qui t'a dit là, que l'homme descendait du singe, lui non plus, c'était pas ben ben winner. Donc, est-ce que la liberté d'expression vise à protéger ces propos-là? Ben oui. Mais ça, le pendant de ça, c'est qu'il y a des opinions débiles qui sont aussi protégées là-dessus. À plus forte raison si t'es un universitaire ou ta job, c'est de faire avancer la science.
Ben oui. Puis ce que j'aimais dans ce que t'as dit tout à l'heure, c'est que si... Parce que, bon, on sait que la discrimination, c'est souvent fondé sur des minorités, bon, identifiables, puis, bon, les femmes, les Noirs, la religion, les choses comme ça. Peut-être que la réponse à ça, c'est qu'au final, la liberté d'expression, même à l'université, a la limite qu'elle a un peu partout, qui est le propos haineux, dénigrement de quelqu'un, elle le met à terre tellement que tu le démolis. Bon, c'est un peu ça, les barèmes, c'est pas absolu, c'est très, très large, on le voit. Mais peut-être que lui, c'est ça la ligne qu'il a franchie en identifiant un groupe puis en vargeant dessus.
Oui, sauf que 3.19 du Code criminel, tu parles de propagande haineuse. Pour qu'il y ait une espèce de...
Non, c'est
à
ça.
La violence, en quelque sorte.
Ouais.
Là, dans ce cas-ci...
On n'est pas là, là.
Les Québécois, c'est une gang de racistes finis. Le lynchage médical, ça commence à être fort un peu. Legault suprémaciste blanc, peut-être que Legault aurait un recours contre lui
Moi, j'étais l'avocat d'Attarange et je dirais il a pas dit que c'en était un, il a dit que ce qu'il a fait, ça a des allures d'un suprémaciste.
Il a dit que c'en était un, moi.
Ok, il l'a dit direct.
Là, j'ai vu la traduction française, peut-être qu'en anglais, c'est pas ce qu'il a dit, mais en même temps, si t'es premier ministre, tu peux pas commencer à poursuivre tous les beaux autres.
Non.
Ça dit, rappelle-toi, par exemple, Parizeau puis Bouchard avaient poursuivi un tata de ce genre-là dans la fin des années 90. Ils avaient traité de nazi, puis ils ont eu gain de cause. Mm-hmm. Ils avaient gagné, je sais pas, là, une couple de dizaines de milliers de dollars, là, les dommages et tout.
Ah, mais c'est tellement perte de temps judiciaire, de frais à l'État.
Puis l'affaire aussi, pour tes auditeurs et auditrices, qu'il faut comprendre, c'est quand t'es premier ministre, par définition, il faut que tu aies la carapace beaucoup plus solide d'un point de vue psychologique, évidemment, mais aussi d'un point de vue légal, dans le sens où c'est normal que tu te fasses rentrer dedans. Des fois, c'est beaucoup. Et là, c'est de savoir, le commentaire, est-ce qu'il est devenu déloyal? Est-ce qu'il y a de l'acharnement et tout ça? Moi, j'ai pas l'impression que Legault gagnerait, même s'il le poursuivait, mais au moins, il y aura un début. Puis si je peux finir avec ça, si tu me permets, moi, ce que j'ai trouvé déplorable dans cette affaire-là, ben, plusieurs choses, mais c'est l'espèce d'hypocrisie des Paul Saint-Pierre Plamondon de ce monde qui, à l'automne dernier, criait au meurtre « La liberté d'expression académique est importante. Les profs peuvent dire ce qu'ils veulent, gnagnan. » Et puis là, t'as un bozo qui était... Puis là, il a fait une plainte à l'Université d'Ottawa. Puis ça, se peut pas des affaires de même. Mais oui, mais c'est parce qu'on c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression, si tu t'appelles Véronique Cloutier, t'en as pas besoin, tout le monde t'aime. C'est pas important pour Véronique Cloutier, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est important si le monde t'haït. C'est ça.
C'était peut-être du beau capital politique, ça. À la défense des Québécois, évidemment, c'est... Qui l'aurait pas fait aussi?
Non, mais Plamondon, c'est pas un con.
C'était assez évident, là.
Mais tu sais, je voulais juste faire remarquer la contradiction patente. Parce que ils veulent jamais que la cancel culture, c'est bien épouvantable, sauf s'il s'agit de canceller Pierre Trudeau à l'aéroport. Ça, c'est bien correct. À un moment donné, il faut arrêter de prendre le monde des cons, être conséquent. Et la liberté d'expression, ben je te dirais que c'est pas un buffet chinois. T'sais, tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas. Si tu veux pas l'appliquer, c'est correct. Mais si tu veux l'appliquer, il faut que tu l'appliques même quand c'est toi qui te fais rentrer dedans.
Ah, bien dit. On voit très bien la subtilité là-dedans. Merci beaucoup, Frédéric.
Hey,
on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.
Bye.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On va parler maintenant du port du masque N95. Vous savez, ce masque là, qui est beaucoup plus technique, qui protège les intervenants là, qui sont sur le front de la santé, à différencier avec le masque qu'on appelle de procédure, le petit masque de chirurgien bleu là, qui est quand même recommandé. Mais le N95 semble protégé. Et là, il y a le TAT, le Tribunal administratif du travail. Il y a un juge qui s'est prononcé. On a failli du côté du gouvernement parce que, bon, on avec la CNESST qui est en charge de vérifier si les conditions justement des infirmières, des intervenants dans la santé sont adéquates, c'est que on obligeait le port du masque dans les zones qui sont chaudes, là. Donc où est-ce qu'il y a des cas répertoriés de COVID-19, mais on l'obligeait pas et on ne le fournissait pas dans les zones tiédes. Où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement des cas, mais il peut y avoir des cas? Et là, le juge n'était pas content de dire on doit appliquer le principe de précaution. Ça, c'est le principe qu'on a vu avec à l'international. Ça vient de la Convention de Rio qui dit quand la science n'est pas si claire, on n'est pas si sûr, ben allons-y un peu plus fort. Donc, on prend des précautions pour protéger les individus. Et on a failli à ça autant ben, du côté du gouvernement. Et c'est une décision, je pense, que beaucoup de travailleurs de la santé ont accueilli. Et certains se demandaient comment ça on s'est retrouvé. On a dû prendre des procédures devant le juge pour arriver bon avec ce qu'on appelle peut-être le gros bon sens. Et on en parle avec Maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
C'est fait, il y a un juge qui s'est prononcé au TAT. Maître Mongeon, qu'est-ce qui s'est passé là, devant le tribunal? Là, c'est le syndicat qui a amené ça devant le tribunal du travail. Et comment qu'on a traité ça avec ce juge-là?
Bien, premièrement, le juge qui a été choisi par le tribunal administratif du travail, ou sur qui peut-être que c'est un hasard, a tombé, qui a rendu la décision, c'est un juge qui est quand même très habileté, qui a écrit beaucoup de livres sur la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, et qui la maîtrise vraiment. Mm-hmm. Il a rendu un jugement de 79 pages, donc c'est vraiment... Il a motivé sa réponse, puis il a passé à travers plusieurs points. Puis qu'est-ce qui est vraiment important, puis c'est ce qui a dégagé de la décision, c'est qu'il dit la CNSST, c'est elle le grand chef qui prend les décisions sur la santé des travailleurs. Okay. On a bien beau avoir des directives de la santé publique ou de d'autres organismes, mais c'est la CNSST qui décide, puis c'est eux qui ont ce pouvoir-là de rendre les ordonnances en conséquence.
Dans le sens que il aurait dû déjà aller au-delà du gouvernement, dans le fond, être plus sévère que le gouvernement pour protéger les travailleurs?
Oui, c'est ça. Dans le fond, que la CNSST, elle, si je comprends bien, elle avait quand même suggéré fortement que le masque soit porté. Et c'est là que l'employeur n'était pas tout à fait d'accord parce que ça lui imposait une obligation importante.
Okay.
Et là, on avait essayé de faire une distinction entre février, avant février 2021 et après février 2021, où il y a eu une modification où maintenant tous les employés qui travaillent dans les zones chaudes et tièdes doivent être équipés là, d'un masque N95.
OK. On ne peut pas être contre la vertu avec ça. Avec l'ampleur du jugement, ça serait surprenant qu'on aille en appel avec ça là, ou en contrôle judiciaire.
Là. Oh, ça serait très, très surprenant. Là. De toute façon, avec les nouvelles directives qui ont été mises sur pied, c'est un petit peu ça qui était discuté, à savoir si ça valait la peine de continuer le débat parce que les modifications avaient été faites en temps réel.
Okay.
Mais le juge est arrivé à la conclusion que oui, le débat est réel et il a décidé de trancher.
Mm-hmm.
Et quand il tranche à la fin, il note 6 points qu'il reprend auprès de toutes les CHSLD. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il a déclaré les 6 points suivants. Soit que l'employeur doit fournir aux travailleurs et aux résidents suspectés là, ou atteints le masque N95.
Okay.
Il doit aussi, point 2, faire les tests d'ajustement, donc le fit test. Mm-hmm. 3, il doit faire une création et une affectation d'équipes dédiées aux zones chaudes et tièdes, parce qu'on n'avait pas vraiment ça.
Okay.
Il doit aussi informer, c'est rendu un devoir. Et il doit s'assurer maintenant que les systèmes de ventilation qui sont en mise en place sont importants, puis adéquats, ça c'est important, on en parle beaucoup.
Okay.
Et aussi, il y avait la question des couvre-chaussures et couvre-têtes, et le juge a conclu que ça, c'était pas une nécessité de fournir ces appareils-là, que c'était vraiment le N95 là, qui devait être fourni.
OK, principalement. Je reviens sur 2 points. Fit-test, c'est de s'assurer que... ça fit, comme c'est dit dans le mot, que c'est la bonne grandeur. Je ne sais pas s'il y a des grandeurs là-dedans.
Oui, bien, ça a l'air que oui. Ça a l'air que pour être sûr que ça protège complètement, il faut qu'il y ait des indications, une formation de comment le mettre adéquatement. Et l'employeur, maintenant, dans les conclusions du juge, a une obligation non seulement de fournir le masque, mais de s'assurer d'enseigner la bonne technique.
Okay. Parce que
vous savez, même si on a un masque et on le porte en dessous de notre nez, hein, ça ne sert pas à grand-chose.
Ah, évidemment. Et l'autre point, informer, ça doit se rejoindre un peu. Donc, formation, de pas laisser ça au hasard, la façon qu'on l'utilise. J'imagine la façon, on le remet-tu une fois, deux fois, trois fois, la façon qu'on le remise, c'est un peu ça?
Bien, c'est surtout d'informer les résidents là aussi sur le port du masque, puis les former sur justement les protections de protection individuelle. Là. C'est vraiment cet aspect-là là, de l'information, mais pas seulement aux travailleurs, mais aux résidents également là, des centres de santé de longue durée. Là.
OK, je comprends. En parlant justement des travailleurs de la santé, des infirmières, il y a une situation, en ce moment, là, ils vivent beaucoup de surcharges. Là, et est-ce qu'il y en a qui appelle le mot burn-out, il y en a qui peuvent partir en burn-out. Si là, on les force à travailler, qu'est-ce qui se passe? Là? Sont-ils forcés à faire des heures de fou? Là?
Bien, on va prendre l'exemple justement là, d'une infirmière. On sait qu'une infirmière qui travaille, à l'urgence, c'est un travail stressant en partant.
Mm-hmm.
OK? Donc, en principe, si on a un épuisement, un burn-out, on peut pas faire de réclamation à la CNSST parce que ça fait partie de notre cadre habituel du travail.
Ah,
donc,
ouais.
c'est notre quotidien à tous les jours. Donc, ça fait partie de nos tâches. Pour pouvoir faire une réclamation à la CNSST pour dire que on est en épuisement ou burn-out, faut démontrer que ça sort du cadre ordinaire du travail. Tu sais, entre vous et moi, nous, on plaide un dossier, la journée est extrêmement stressante, on revient à la maison et on se sent épuisé. Est-ce qu'on peut réclamer à la CNSST? Ben non, ça fait partie de nos tâches habituelles.
Okay.
Fait qu'il faut démontrer, par exemple, qu'il est arrivé quelque chose de particulier. Et là, j'ai le goût de vous répondre qu'avec la COVID, je pense que ça devrait être assez simple de démontrer que ça sort du cadre habituel, qu'une modification des tâches. Puis, donc, en principe, on peut dire que c'est comme un accident de travail. Parce que, mm-hmm. laissez-moi préciser, M. Bernier, que la LATMP, vous le savez, elle a été mise en vigueur en 1985, était bonne pour le travailleur qui tombe en bas de l'échelle. Ça, c'était clair.
C'est plus facile la preuve quand quelqu'un est blessé physiquement. Là.
Ben oui, ça s'appelle un événement imprévu et soudain. C'est clair que c'est passé quelque chose.
Mm-hmm.
Moi, quand j'ai commencé à plaider dans les années 80, fin 90, tout ce qui était lésion psychologique était toujours refusé. La loi n'était pas faite pour ça. Mm-hmm. Avec le temps, MeToo, les normes du travail, l'harcèlement psychologique, les tribunaux ont ouvert à ça.
OK.
Sauf que, effectivement, faire une réclamation au niveau psychologique, c'est encore plus dur que physique. Et faire une réclamation au niveau psychologique, il faut que tu démontres vraiment qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Par exemple, on était 2 sur l'étage, puis pendant 2 jours, j'étais toute seule.
Mm-hmm.
Ce genre d'événement-là. Là.
OK. Là, dans ce cas-là, on peut prouver là, si on n'est plus capable, puis on est en, je pense qu'on appelle ça maintenant surcharge. On est en surcharge.
Ben, le burn-out puis l'épuisement, c'est une vieille façon de quantifier le problème psychologique. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça un trouble d'adaptation. Donc, on s'adapte plus à une situation. Donc, ça, c'est le petit frère de la dépression, disons, par exemple. Donc, un épuisement, un burn-out, si vous allez voir votre médecin avec ce problème-là, si vous indiquez ça dans votre dossier médical, la CNSST ne l'acceptera pas, faut que ce soit un vrai diagnostic, là. Justement, comme je vous dis, un trouble d'adaptation, ça, c'est un vrai diagnostic.
Parfait, je comprends. Maître Mongeon, pendant que je vous ai, j'ai deux questions en rafale que je me fais poser par des gens, justement dans le domaine de la santé. Sentez-vous à l'aise si vous avez la réponse, tant mieux, sinon c'est pas grave. Est-ce que, vu que le N95, il y a comme une forme d'erreur du gouvernement, ou quelqu'un, une infirmière qui a subi des contre-coups de tout ça, il a pas fourni de masque, il est tombé malade, puis a des séquelles de tout ça, elle pourrait-tu poursuivre ou réclamer à cause de ça?
Non, c'est un système de no fault, donc sans faute, au même principe que la loi sur l'assurance automobile. Mm-hmm. Donc, si effectivement l'employeur a fait une erreur d'une façon quelconque, c'est sa compagnie d'assurance qui va payer. C'est qui la compagnie d'assurance des employeurs? C'est la CNSST.
OK.
Toutefois, moi, quand je lis le jugement du tribunal administratif du travail, là, mm-hmm. on parle beaucoup de résidents. Et là, on voit qu'il y a eu des fautes. Et là, je pense plutôt que pour les résidents, malheureusement, qui sont décédés, donc les familles, ça, ce jugement-là démontre peut-être qu'il y a eu des erreurs. Donc, ça pourrait être un outil de plus pour un avocat qui voudrait justement poursuivre un centre de longue durée.
Là. OK. Bon, bien répondu. Dernière question à une minute, et sinon on en reparlera dans une autre chronique. Là. Les vacances là, des infirmières, là, il y en a beaucoup qui pensent. Est-ce que l'employeur a le droit de ne pas donner de vacances avec le décret? Là? Ça tient-tu la route?
Non. Non, ça c'est de base. Et, écoutez, en principe, la seule chose qui me vient en tête, c'est en partant, ça va à l'encontre des normes du travail qui prévoient qu'un travailleur a le droit à des vacances pour récupérer. Puis si on lui empêchait justement des vacances, ça serait une occasion parfaite pour dire, écoute, j'ai été surmené, il y a eu une surcharge.
OK, et donc il y a un danger avec cette idée-là là, d'enlever les vacances aux travailleurs de la santé. Là. Ça ouvre la porte à peut-être un problème, là.
Ben c'est sûr, t'sais, on a besoin des temps de repos là. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est conventionné dans des conventions collectives aux normes du travail et protégé justement aussi par la CNSST là.
Ouais.
Okay. Une chance qu'on a des bonnes lois de travailleurs ici au Québec. On est vraiment parce que j'ai le goût de vous dire de ce temps-ci que les travailleurs de la santé là, ils en ont pour leur argent, sont sous-protégés et surmenés.
Ouais, effectivement. En tout cas, bien, au moins, là, ils sont informés. Merci beaucoup, Maître Sophie Mongeon. On se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée.
Merci, à bientôt.
Bye-bye.
Cube Radio.